Je réfute totalement ce qui se
met. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. La loi portant statut du militaire congolais adoptée au Parlement vient d'être promulguée par le chef de l'État. Selon le gouvernement, cette loi va permettre une amélioration des conditions sociales des militaires. Elle détermine notamment l'âge de la retraite pour les sous-officiers à 45 ans et à 60 ans pour les officiers. Elle donne par ailleurs au chef de l'État le droit de nommer, relever et le cas échéant, révoquer les officiers de l'armée. Radio Okapi vous accorde la parole dans cette tranche d'échange et partage pour en débattre avec comme question principale, que pensez-vous de ces innovations et autres éléments contenus dans cette loi cadre? Composez donc le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39 pour votre participation en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre courriel pa@radiographie.net. Titi Poutou et Pierrot Lamegi réalisent ce programme mis en onde par Mimi Kindou et présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
C'est le 25 août 2012 que la loi portant statut du militaire a finalement, après examen, été adoptée. Et c'est ce mois de février qu'il vient d'être promulgué par le chef de l'État. Le texte voté récemment met en exergue les délicatesses des droits et obligations inhérents aux services militaires dans un pays post-conflit comme la RDC. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi qui vous accorde la parole. Jean-Pierre, vous êtes à Kikwit et Roger à Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Voilà Jean-Pierre, c'est vrai, le Parlement avait adopté la loi portant statut des militaires et cette loi vient d'être promulguée par le chef de l'État. Au nombre des innovations, on note quand même l'âge de la retraite pour les sous-officiers qui était fixé à 45 ans. Que pensez-vous de ces innovations et autres éléments contenus dans cette loi cadre?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je vous salue et je vous souhaite une meilleure vœu de l'année parce que c'est ma première fois de vous intervenir dans ce sens-là. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé qui nous écoutent. Vraiment, dans ce loi cadre, il ne fallait même pas que qu'on soit seulement à récent parce que les militaires ont vieilli et plusieurs personnes sont devenues des périmés. Ils ont débauché le service militaire pendant beaucoup d'années. On les garde comme ça. Et on garde seulement la pension pour les militaires. C'est vrai, mais et pour les autres, tous les agents de l'État, tout le monde a vieilli, il ne fallait même pas penser seulement aux militaires. C'est mieux de ce loi cadre qu'on a voté. Il fallait que le président vote la loi cadre pour tous les fonctionnaires de l'État qui sont comme militaires. Et nous sommes tous dans les champs de bataille. Tout le monde travaille, tout le monde a tel âge. Comment seulement on vient changer qu'aux militaires et pas aux autres fonctionnaires? C'est mieux.
S'il vous plaît,
mais d'abord,
Jean-Pierre.
Je suis désolé pour nos militaires.
Oui,
ils vont toujours être dans la champ de bataille, mouillés sous la pluie, et pour tout, et vraiment.
Oui, Jean-Pierre,
bizarre,
s'il vous plaît, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Jean-Pierre. Voilà, c'est vrai que il y a la réforme de l'administration, les réformes qui sont engagées, c'est là. Aujourd'hui, nous parlons de cette réforme de l'armée, n'est-ce pas? Restons dans cette réforme de l'armée, et ne versons pas dans la réforme de l'administration, parce que nous avons eu à parler de ce sujet il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous parlons des militaires, et demain, nous pourrons peut-être parler aussi de la loi portant statut des policiers. Et ben alors, pour ce qui concerne les militaires, nous vous avons présenté quelques innovations. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ces innovations-là?
Oui, mon commentaire, c'est bien. Nous félicitons le président de la République de pouvoir songer aux militaires parce que ce sont les combattants du pays. Quand ils combattent maintenant, on doit les exclure dans le cadre pour prendre le jeune. On doit recenser le jeune pour aller à l'armée parce que les jeunes, maintenant, on les insouffle pour la bataille. Les vieux ont vieilli. On doit maintenant rénover les sous-officiers à la jeunesse.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Roger, donc vous souhaitez qu'on puisse renforcer le recrutement du côté de l'armée en donnant beaucoup plus l'occasion ou l'opportunité aux jeunes de pouvoir accéder à l'armée congolaise. Merci Jean-Pierre. Roger, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, c'est vrai que Jean-Pierre a salué de demain le rajeunissement de l'armée congolaise. Est-ce que Roger, vous partagez cet avis ou peut-être vous avez un avis contraire?
Non, je partage son avis et j'ajoute encore quelque chose. Parce que vous le savez bien que l'armée, la police et les services de sécurité sont des éléments de la puissance d'un État. Alors, quand cela ne tienne, il faut donc mettre du sérieux dans ces institutions. Il y avait eu déjà une loi portant organisation et fonctionnement des forces armées. Je ne sais pas si cette loi est exploitée dans sa totalité. Il y a des certains articles qui ne sont pas exploités. Alors, il y a maintenant le statut, donc la loi portant le statut du personnel des forces armées qui vient ou d'avoir le jour. Alors, je ne sais pas. Donc, entre les deux, la première œuvre et la deuxième œuvre, quelle est l'œuvre qui prépare l'autre? Parce que si la première n'est pas donc bien exploitée, n'est pas bien appliquée sur le terrain, même la seconde qui vient d'avoir le jour, je pense que ça sera toujours de même. Alors, comme suggestion, donc j'aborde dans le même sens pour dire qu'il faut rajeunir notre armée. Donc, pour passer à cela, il faut quand même qu'il y ait des critères. Le vieux, donc, tranche d'âge qu'il y a déjà dans les chefs des officiers qui sont sur le terrain. Et vous le pensez, vous le savez bien qu'il y a plus des officiers que les hommes des troupes sur le terrain. Alors, il faut donc indemniser les autres, donc mettre en retraite les uns pour que ceux-ci laissent la place aux nouveaux venus qui sont des jeunes pour donc relever les défis de notre armée. Parce que notre armée pour aujourd'hui, moi je considère comme une armée d'expédition de courriers qui n'est pas à la hauteur de sa mission lui assignée par l'État de pouvoir donc sauvegarder l'intégrité du territoire et puis sécuriser les personnes et leurs biens. Bien au contraire, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que il y a des frustrations qui sont encaissées par les hommes de troupes. Donc, à force de mesure d'encaisser les frustrations, ils cherchent maintenant à restituer les frustrations chez qui? Chez l'employeur qui est l'État. Alors il faut que l'État prenne conscience.
Oui, Roger.
Donc ces frustrations se symbolisent par les monnayages des services, les sabotages, ainsi de suite. Alors il faut que l'État prenne conscience de mettre du sérieux dans les hommes des troupes, pour tenir compte du social des militaires. À ce moment-là, nous allons évoluer.
Oui, Roger, juste une question de relance. Hein. C'est vrai, nous avons lu le texte qui vient d'être promulgué. Il est dit que la moralité sera désormais, dorénavant, exigée comme critère, parce que vous avez parlé de critères essentiels, tant dans le recrutement que dans la promotion des militaires appelés à se départir des tares du passé. Voilà, que vous inspire cette innovation?
Non, c'est une bonne chose. Tenir compte de moralité, c'est une bonne chose. Même probité morale, c'est une bonne chose. Parce que un militaire, c'est un monsieur, un patriote, donc qui s'est sacrifié pour, ce n'est pas pour seulement mourir, mais aussi pour relever le niveau de sa nation. Aujourd'hui, nous pouvons parler, bon, s'il n'y a pas cette conscience-là liée à la probité morale des militaires, alors rien ne doit marcher. Mais la probité morale aussi a des conséquences comme donc les sociales des militaires. Quand le social aussi est bon chez un militaire, donc il y a prise en charge par l'État de son social, à ce moment-là, il doit y avoir aussi donc probité morale. La probité morale marche avec le social. Alors quand le social ne marche pas, comment voulez-vous que vous puissiez demander celui-ci d'être bon dans sa conscience, d'être ceci ou cela? Sa famille qui est abandonnée à son triste sort, on ne sait même pas comment il est logé, on ne sait même pas comment il termine le début du mois, s'il est locataire, voilà un peu des choses comme ça. Alors tout ça, ça décourage et il y a des frustrations que les messieurs encaissent et ils restituent ces frustrations par les petits peuples que vous voyez sur le terrain.
Merci beaucoup Roger d'avoir appelé de Kinshasa. Nous prenons Machaka qui est à Lubumbashi. Bonjour Maître Machaka.
Bonjour, monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, les auditeurs qui vous ont précédé, ils ont appuyé l'idée de rajeunissement de l'armée congolaise. L'un des points inscrits dans cette loi portant statut du militaire. Est-ce que vous partagez cet avis ou carrément vous abondez dans un sens contraire, Maître Machaka?
Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir accordé cette opportunité. J'aborde dans le même sens que mes prédécesseurs, mais rien n'empêche que je puisse ajouter quelque chose, M. Dieu. Vous savez que l'idée est bonne de rajeunir notre armée, mais il faut qu'il y ait des conditions de recrutement. Il faut qu'on tienne sous compte des casiers judiciaires de ces gens-là pour recruter, M. Dieu. Puisqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, certains malfaiteurs, pour en profiter d'exécuter leur mission, ils en profitent d'entrer dans l'armée, afin de commencer à tracasser la population. À ce moment-là, notre gouvernement, M. Gilles, doit tenir compte de la moralité des nouveaux recrues, M. Gilles. Ça, c'est le premier point. Puisque vous savez, aujourd'hui, M. Gilles, la formation ne doit pas être bâclée. Auparavant, vous savez, un simple gendarme faisait une formation d'au moins 6 ans. Mais aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, M. Gilles, hier, il était civil, après 2 mois, vous le trouvez en tenue militaire. Vous vous posez des questions, quand est-ce qu'il est allé se mettre sur les bancs de l'école militaire pour apprendre les règlements militaires. Puisque ce qui fait que beaucoup de nos militaires ne savent pas leur mission, parce qu'ils n'ont pas été enseignés, M. Gilles. Ils ont été seulement ramassés comme ça. Si il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est au gradé là-bas, qui les promouvoit quelque part, vous le voyez enseigner. À ce moment-là, cette personne-là, il ne sait même pas pourquoi il est militaire. Notre gouvernement doit tenir compte de tout ça, mais c'est géré. D'aider, il faut améliorer les conditions sociales de nos militaires. Vous savez, auparavant, notre armée était une armée qui était bien respectée en Afrique centrale, compte tenu de leurs forces. On ne manque pas les éléments. Si on encadre bien nos militaires, on ne pouvait même pas recourir à la force étrangère pour venir nous secourir à la situation que nous traversons à l'est là-bas. À ce moment-là, M. Gilles, ce que je vais demander à notre gouvernement, c'est de prendre les histoires au sérieux. Les lois, il y a tant de lois qu'on vote. Ce sont des bonnes lois, mais leur applicabilité, c'est ce qui pose problème, M. Gilles. Nous avons besoin d'une armée responsable, une armée disciplinée. Ce n'est pas de la faute de ces gens-là qui ont armé. Aujourd'hui, puisque si vous présentez seulement comme on a besoin des éléments, on vous enrôle directement, on ne tient même pas compte de votre casier judiciaire, on ne sait pas qui était qui avant de venir s'enrôler à l'armée, qui était un bandit mais armé, il vient comme on a besoin des éléments des voilà. Forces armées congolaises. On vous récrète directement. Alors,
voilà, donc il faut tenir compte du casier judiciaire.
Doit beaucoup jouer, monsieur.
Merci beaucoup. Vous avez parlé de 3 choses. D'abord, il faut qu'on soit un peu beaucoup plus regardant par rapport à la situation judiciaire de celui qu'on recrute dans l'armée. Donc là, vous avez évoqué le casier judiciaire. Vous avez insisté également sur les conditions de recrutement. Il faut que ce soit les meilleures conditions afin d'éviter que de personnes pas avec une probité morale requise puisse s'introduire dans ce groupe. Et enfin, vous avez évoqué l'aspect formation. Donc, celui qui entre dans l'armée doit être formé et vous soutenez à 100% les rajeunissements de l'armée congolaise. Merci, Maître Machaka, 081-890-63-15 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Honorable Mohamed Boulay, vous êtes ministre honoraire de la Défense. C'est vrai, nous vous recevons en qualité d'expert, c'est la question militaire. Et cette loi venait d'être promulguée, c'est une bonne chose, vous avez suivi les uns et les autres, tout le monde presque salue des deux mains. Mais l'accent mis dans cette émission, c'est le rajeunissement de la jeunesse de l'armée. Aujourd'hui, l'âge fixé, notamment pour les sous-officiers, c'est autour des 45 ans. Je crois que vous êtes mieux placé pour nous le confirmer et nous faire une idée sur l'âge fixé pour d'autres militaires, par exemple d'autres catégories de militaires.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je remercie aussi les fidèles auditeurs qui nous suivent en ce moment. D'autres ont rappelé, mais particulièrement, je voudrais recommander à chaque citoyen congolais, lorsque les lois sont promulguées, c'est-à-dire signées par le chef de l'État, envoyées pour leur publication au journal officiel, une fois publié au journal officiel, 30 jours après, ça devient opposable à tous. Donc, tout Congolais a les droits d'aller s'en procurer pour en disposer personnellement et lire article par article jusqu'au dernier article. D'abord, il y a eu cette loi organique numéro 11-012 du 11 août 2000 portant organisation et fonctionnement des forces armées qui a déterminé certaines choses. Il fallait bien que les statuts viennent compléter. C'est ce qui est déjà fait parce que depuis le 15 janvier dernier, le président de la République, chef de l'État, l'a promulgué la loi portant statut des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose parce que depuis le 4 juillet ou le 17 novembre 1888, à la force publique, en passant par l'ANC, l'ex-EFAS et aujourd'hui,
c'est
la première loi et donc qui règle tous les problèmes liés à la carrière militaire. Et donc, avec les grands composants, les officiers, c'est-à-dire du sous-lieutenant jusqu'aux généraux, et les officiers généraux, je vais dire, les officiers supérieurs. Ils sont compris dans les officiers, les sous-officiers du sergent jusqu'à l'adjudant-chef, et les hommes de rang, depuis la recrue jusqu'au caporal. Ces statuts sécurisent le service militaire, la carrière militaire, parce que maintenant, on travaille, on passe d'une époque à l'autre, maintenant, tout celui qui veut faire cette carrière, il doit être pris au départ comme sous-statut pour les hommes des rangs. Et les conditions, les dispositions particulières applicables aux officiers et sous-officiers, d'une part, et ceux de militaires des rangs, ne font plus aucun doute, et donc c'est clair. Et là-dedans, les uns sont intervenus en ce qui concerne
le recrutement et l'âge de la retraite.
Je voudrais ici leur dire que c'est à l'article 25, au chapitre 1er, qu'on détermine les conditions et modalités communes de recrutement. Je me permets de les lire. Tout recrutement, dans le cadre des officiers et des sous-officiers, doit avoir pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi budgétairement prévu et repris au catalogue des emplois des forces armées. Article 26 poursuit, le recrutement s'est fait sur concours portant sur les épreuves physiques, psychotechniques et d'aptitude militaire, dont les modalités sont déterminées par l'arrêté du ministre ayant ses attributions, dans ses attributions à la défense nationale. Sur toute l'étendue du territoire national, il tient compte de la participation équitable de toutes les provinces et de la dimension genre. Toutefois, il se fait sur titre lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir. L'article 27 poursuit, nul ne peut être recruté dans le cadre des officiers ou des sous-officiers s'il n'est satisfait aux conditions suivantes. 1. Être de nationalité congolaise, être de bonne moralité, n'avoir pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Être reconnu par la commission ad hoc instituée par le ministre ayant dans ses attributions la défense nationale, physiquement et mentalement apte à exercer les fonctions d'officier ou de sous-officier, n'appartenir à aucun parti politique ni regroupement politique, à moins d'en avoir démissionné préalablement au dépôt de la candidature. Être célibataire, jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques, être âgé de 18 ans au moins et 25 ans au plus, sauf pour les exceptions prévues par la présente loi. Remplir les conditions fixées pour l'accès au grade de recrutement, être classé en ordre utile. Vous me parlez des problèmes de
l'âge de la retraite.
De l'âge de la retraite. C'est une bonne chose. Il y a l'annexe qui le prévoit. À quel moment précis tel peut prendre sa retraite, comme moi aussi je le fais. Je crois que nous sommes à l'annexe 4. Restez-moi de fuir. Les tableaux des limites d'âge théorique pour les officiers généraux. Les généraux d'armée à 59 ans. Les lieutenants généraux à 59 ans. Les généraux-majors à 58 ans. Les généraux des brigades à 58 ans. Pour les officiers supérieurs. Le colonel, c'est à 57 ans qu'il doit prendre sa retraite. Le lieutenant-colonel à 56 ans, le major à 55 ans, l'officier supérieur à 55 ans. Pour les officiers subalternes, capitaine à 55 ans, lieutenant à 50 ans, sous-lieutenant à 48 ans. Pour les sous-officiers de première classe, l'adjudant-chef à 54 ans, l'adjudant de première classe à 52 ans, l'adjudant à 51 ans. Pour les sous-officiers de deuxième classe, le premier sergent-major à 50 ans, le sergent-major à 48 ans et le premier sergent à 48 ans. Pour les sergents à 45 ans, les sous-officiers donc à 40 ans, c'est-à-dire la troupe, c'est-à-dire les soldats de deuxième classe au caporal, à 40 ans. Et là, la détermination des règles de jeu est aussi fixée pour le recrutement. Le recrutement s'ouvre à tous les jeunes Congolais de 18 à 25 ans. Et maintenant, parce qu'on passe du stade sous statut, lorsqu'il répond à tous ces critères qui sont contenus, parce que c'est un volumineux document de 300 articles, et donc on donne maintenant la tranche de durée de service pour les hommes de troupes. Et donc, c'est lorsqu'il est admis, il est apte, il va suivre sa formation en temps commun dans un centre d'entraînement et d'instruction. 9 mois de formation, à sa sortie, il est nommé soldat de deuxième classe. Il poursuit. Il y a d'autres formations destinées.
Nommé soldat de deuxième classe entre 18 et 25 ans.
Oui. Dans l'ordre, dès qu'il termine les 6 ou 9 mois de formation dans un centre d'entraînement ou d'instruction. Et donc, à la sortie, il n'est plus recrut et le soldat, il est soldat de deuxième classe. En ce moment-là, leur contrat, ici, le premier contrat, de 7 ans. Lorsque les 7 années approchent, avant les 3 derniers mois de fin de son contrat, il doit individuellement écrire pour signifier qu'il a l'envie
de poursuivre,
mais seulement pour 7 ans supplémentaires. On lui répond, et à ce moment-là, lorsqu'il ne passe pas d'une catégorie, de la catégorie de l'homme des rangs au sous-officier, parce que là, il y a des formations à différents stades, à 4 stades, brevet 1, brevet 2, brevet 3, ainsi de suite, c'est la même chose pour les officiers qui ont 5 ans, et donc des formations continues, jusqu'à avoir son titre académique de breveté d'état-major ou d'administration, qui équivaut à la licence en sciences sociales et militaires ou à l'administration. En ce moment-là, les 7 années, s'il restait première classe ou caporal, lorsqu'il a 14 ans, il doit prendre sa retraite pour être
obligatoirement.
Et donc, personne ne va s'accrocher à rester à l'armée éternellement.
Oui, honorable, au contexte actuel, par rapport au contexte actuel, je crois que si nous regardons l'armée congolaise, les FRDC, c'est vrai qu'il y a, l'a dit un auditeur tout à l'heure, il y a plus des officiers qui est les hommes des troupes. Est-ce que depuis la promulgation, parce qu'on dit les textes entrent en vigueur à la date de sa signature, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comment ça va se passer concrètement?
Ça ne va pas se passer dans les désordres. Au niveau du ministère de la Défense nationale et de l'état-major général, parce qu'il faut reconnaître les structures militaires en ce qui concerne les forces armées, ça s'appelle le haut commandement militaire, qui est constitué du chef d'état-major général, et de ses adjoints et de ses sous-chefs d'état-major qui doivent être nommés en rapport avec cette loi. Le chef d'état-major de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale, les commandants des zones de défense, les commandants du corps logistique, les commandants du corps de santé militaire, les commandants du corps des troupes de transmission, les commandants du corps de génie militaire, les commandants généraux des écoles militaires, les commandants des services d'éducation civique, patriotique et action sociale, et les commandants des services de communication et d'information des forces armées. Ils sont 14. C'est à eux maintenant d'examiner tous ces cas-là, parce que au regard de cette loi, leurs missions sont bien définies dans la loi organique en ce qui les concerne.
Oui, on reviendra
pour l'évaluation.
Oui, honorable, si vous permettez, reviendra sur les missions.
Oui.
Les missions assignées à tous ces services.
Oui.
Il est temps d'abord d'accorder la parole à nos 3 auditeurs qui sont en ligne et qui attendent depuis longtemps. Denis qui est à Kindu, Adrien à Kananga et Patrick à Kitantou au Katanga. Denis, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, Denis.
Bonjour, l'honorable, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà,
Denis Zanga King.
Voilà, Denis Zanga à Kindu. Vous avez la parole, Denis.
Oui, à Kindu, Manema. Oui, monsieur Gilles, en suivant tout ce que l'honorable vient de dire et de le préciser, bon, je ne refuse pas, c'est vrai, il y a la réforme, il y a une loi qui est promulguée par le chef de l'État. On ne refuse pas, monsieur Gilles. Moi, je veux parler sur les aspects négatifs, aspects concernant cette loi.
Allez-y.
J'ai suivi avec l'intérêt tout ce que l'honorable a dit. Mais, en disant qu'ici, ça arrive 45 ans, un militaire vieux, d'étranger de 45 ans, s'il est aux troupes, il va passer maintenant à la traite. Et si le officier a 60 ans ou a 50 ans d'années, c'est que l'honorable vient de parler là-bas. Mais après la retraite d'un militaire, est-ce qu'il sera payé par l'État ou il sera qui? S'il sera payé par l'État, est-ce qu'on va lui payer combien d'argent s'il était officier? Parce qu'avec un général, il peut y avoir, on peut lui payer plus de 100 $, 150 $, 200 $. Et s'il passe maintenant à la retraite, c'est vrai qu'il passe à la retraite, mais il a l'esprit militaire. On ne peut pas refuser. En tout cas, il faut regarder avec intérêt là-bas. Je dis d'abord à l'honorable et tout le monde qui est en train de me suivre là-bas. Parce que si chez nous, au Congo, la monnaie courante pour conquérir au pouvoir, il faut créer des groupes militaires négatifs. Parce que je ne refuse pas. En disant, on lui perd par exemple 45 000 fois congolais ou 55 000 là où il était militaire. Et maintenant, il passe à la retraite, on peut lui payer par exemple 100 $, 300 $, 400 $. Et avec ces 400 $, on peut lui payer en un coup. Et les 400 dollars viennent d'être coulés, est-ce qu'il va accepter de vivre dans les cultiver les champs ou il va se donner le pouvoir parce qu'il a l'idée d'être militaire, il va recruter les gens et tous les militaires qui ont passé à la retraite, par exemple un général, il peut appeler les autres, il a des connaissances pour créer encore d'autres troupes militaires positives pour créer encore le pouvoir parce que nous savons très bien que notre gouvernement a toujours l'habitude de dire s'il y a l'armée négative ou les troupes négatives au Congo, on va toujours passer au niveau de la période de négociation pour qu'on partage les pouvoirs.
Voilà,
c'est là où il y a des problèmes.
Donc,
il faut veiller sur ça. Il faut veiller sur ça. Il faut qu'on veille sur ça pour éviter un peu de problèmes ici chez nous au Congo.
Merci c'est beaucoup, Denis. Voilà, votre inquiétude tourne autour et après, donc la pré-retraite, que deviendra le militaire mis en retraite. Merci beaucoup, Denis, d'avoir contribué à cette émission par rapport à cette réflexion. Merci. Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, Adrien, vous avez suivi les uns les autres, vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole. Juste pour aborder dans le même sens avec mon prédécesseur. Et moi, je voulais plus parler après retraite, c'est les problèmes. Je connais l'histoire qui s'est déroulée dans notre pays, comme mon père. Il fut adjudant, Taï Mobutu. Il est retraité aujourd'hui. On le paye 2500 francs, s'il vous plaît. 2500 francs. Bon, si on peut dire à 40 ans ou 45 ans, on peut écarter beaucoup de gens pour qu'ils soient en retraite. Moi, je me pose une telle question. Est-ce que l'État sera capable de leur payer convenablement et plus pour éviter des troubles? Vous savez, lorsqu'on est à 10, 15, 20, 50 et qu'on est maintenant dans une situation, on peut se regrouper et après créer encore un groupe de rebelles. Est-ce que l'État, par là, va dire encore aux gens, non, voilà, nous sommes agressés, nous sommes agressés. Moi, je trouve que voter les lois, c'est bien. Mais
le
appliquer, c'est vraiment une bonne chose.
Merci.
C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Adrien. Patrick Kitantou, vous êtes au Katanga, bonjour.
Bonjour, Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, vous avez également la parole.
Et justement, je voudrais juste intervenir à propos de la promulgation de cette loi. Donc, mon problème est basé est sur cette loi qui vient d'être promulguée. Bon, je ne sais pas. Le chef de l'État ne fait que promulguer des lois et des lois, et on ne sait pas où est-ce que ces lois sont appliquées. L'applicabilité de ces lois-là doivent être vues ou palpées du doigt des... dans la vie quotidienne de la population aujourd'hui. Et autre chose que je voudrais dire, c'est à propos de cette retraite. Et après ça, ce sera comment? Après qu'un militaire ou un officier puisse avoir
sa retraite.
Sa retraite, merci. Ce sera comment?
Voilà. Donc, tu penses comme, tes, donc, comme les prédécesseurs.
Le problème de l'applicabilité de la loi promulguée par le chef de l'État, parce que il promulgue des lois.
Oui, Patrick, une chose est vraie. Patrick. Oui, Patrick, une chose est vraie aussi pour les communs des mortels que nous sommes, les Congolais, les citoyens. Nous devons nous approprier aussi de certaines lois qui sont publiées. Parce que je ne sais pas à votre niveau, est-ce que vous avez une idée d'abord sur cette loi qui a été promulguée? Parce que c'est la procédure normale quand une loi est promulguée par le chef de l'État et autorisée à la publication au niveau des journaux officiels pour que cela soit mis à la disposition de la population, afin que la population puisse se faire une idée sur la loi. Est-ce que vous avez une idée sur cette loi-là?
Oui, effectivement, je n'ai pas encore une idée, mais par rapport à ce que vient de dire mon
voilà.
honorable...
Donc le suivi doit être fait, donc, le suivi doit être fait aussi par nous, nous la population.
C'est juste cette applicabilité.
Voilà. Dans les jours à venir, Patrick...
Le suivi, donc, de la loi promulguée par les chefs de l'État. On promulgue, mais après, on ne voit pas...
Voilà, il faudrait que nous ayons déjà une idée sur la loi, et comme ça, à notre niveau, nous pouvons faire les débats pour dire telle disposition n'a pas été respectée. Mais si on n'a pas la maîtrise, on n'a aucune idée sur cette loi, on ne saura pas non plus faire les suivis, on ne saura pas non plus faire un commentaire. Merci, Patrick, d'avoir appelé. Gérard, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Alain.
Voilà, vous avez suivi vos prédécesseurs. Parmi eux, il y a quelques-uns qui ont appuyé l'idée des rajeunissements de l'armée congolaise. Mais aussi, il y a des inquiétudes qui tournent autour de l'après-retraite. Quelles sont les conditionnalités et comment ça va se passer après la retraite? Vous avez la parole, Gérard.
Merci beaucoup. Je suis en train de répéter par le fait que les lois chinoises en RDC sont votées et sont publiées plutôt... à chaque prise et chaque mois ou chaque année. Mais l'applicabilité ou la mise à l'œuvre des dispositions de ce qui se trouve dans ces lois ne sont pas respectées. Moi, je vais dire ceci. Je pose la question à éviter de savoir s'il y a déjà des militaires retraités ici au Congo et qui vivent bien et qui sont pris en charge par l'État. Ça, c'est un deuxième moment. Il y a recrutement des jeunes donc pour renforcer notre armée nationale. Mais si réellement les jeunes restés sont à la disposition de l'État, si réellement les conditions de vie de ces garçons qui viennent de se mettre au service de la nation seront respectées à l'avenir. Donc c'est pour dire que on peut promulguer une loi, mettre un contrôle et suivi sur la loi et suivre normalement les dispositions qu'on a écrites. Donc, dans la loi, ça va nous donner un peu une idée sur ce que nous sommes en train de faire. Pour dire au président de la République, il peut nous aider à bien maîtriser les dispositions qu'on est en train d'écrire dans les lois, pour dire de promulguer à chaque instant. On a promulgué telle loi. Mais lorsque la population reste tranquille, elle se rend compte que l'applicabilité de ces lois promulguées par le chef de l'État n'est pas surtout respectée. En tout cas, ça ne fait pas les ententes à chaque instant. Donc, les publications des lois militaires. Ça, c'est. Deuxièmement, je vais dire ceci. Les propos des auditeurs de la radio allaient être les recommandations à travers le gouvernement pour se rendre compte que, donc, normalement, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Voilà, Gérard, vous sortez vraiment entrecoupé. Je crois que derrière la baie vitrée, on va nous aider à établir une bonne communication avec vous. Comme ça, on pourrait bien poursuivre avec vous. Mais on prend Franck qui est en Belgique. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur GR. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Franck, vous avez la parole.
Oui, j'étais en train de vous suivre là, mais j'ai pas tout capté. Moi, je voudrais seulement poser la question. On recrute à l'âge de 18 ans et la retraite, c'est à 45 ans.
Mais pour le, autour des 40
pour ans. Les militaires. Pour les... 45 ans, c'est pas si je vous ai bien compris.
Oui, allez-y. Oui, bon, 40,
45 ans. La guerre, la formation doit durer combien d'années? Parce que de 18 à 45, c'est pas beaucoup si on doit prendre 6 ans, c'est pas de formation militaire. Donc, je ne sais pas, ces officiers-là devraient vraiment travailler pendant combien de temps?
Voilà, notre invité va revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure en ce qui concerne les hommes des troupes et puis les officiers. Bah, c'est il y a quand même une différence par rapport à ces deux catégories de militaires. Nous avons Christophe qui est à Kindu. Christophe, bonjour.
Je suis resté en ligne.
Voilà, Christophe, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà.
C'est Christophe, hein?
Oui, Christophe, allez-y.
Oui,
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste GR. Le thème que vous avez choisi a été décortiqué par mes prédécesseurs. Ils ont touché beaucoup de points séants, très importants, brûlants. Mais ce qu'ils ont soulevé, notre invité a semblé minimiser. En répondant, vous avez, moi, personnellement, j'ai suivi ce qui semble en train de faire beaucoup de choses. Après les textes, c'est quelque chose de très, très capital. Avant et pendant, en pleine fonction, le recrutement des militaires, c'est un problème. On prend n'importe qui. Quand on l'intègre dans l'armée, il y a l'impunité, l'applicabilité. Il y a quelqu'un qui a parlé de probité morale. Non, monsieur. Nous devons... Bon, je vais prendre l'armée comme une femme. Une femme ne peut être... Allô?
Allez-y, on
ne peut être, oui, oui. Ne peut être fidèle que lorsque son mari la met à des conditions de fidélité. L'armée ne peut être loyale et avec une probité morale élevée lorsque ceux qui dirigent l'armée, les autorités qui tiennent le pouvoir pour la direction de l'armée, mettent les conditions nécessaires pour que l'armée se mette comme telle. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé des paiements des militaires.
Oui, allez-y,
un salaire chronotique, monsieur. Mais retraité à 45 ans, vous avez encore toute la force. Vous avez passé toute une vie avec un salaire chronotique. On vous retraite avant, mais la moralité est claire comme de l'eau dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui va devenir par la suite? Tous ces congrès-là de militaires déjà retraités, mal payés pendant une longue période, vont prendre les armées et ils vont faire la guerre contre le gouvernement et ce qu'ils sont en train de connaître aujourd'hui reviendra par la suite. Ça, c'est un. Deux.
Oui,
mais je vais terminer, il ne faut pas m'arrêter.
Oui, rapidement.
Deux. Avec le mixage des militaires qu'on a fait, on a pris les civils en tenue. Ils deviennent des officiers, nous le connaissons, moi j'étais à Kinshasa, aujourd'hui je suis à l'Est.
Oui, on va pas citer les noms.
Aujourd'hui qui sont officiers, généraux, qui ceci, cela. Mais écoutez, un civil en tenue, qu'est-ce qu'il peut faire devant les autres? Il n'y a pas de succès à ce. Ces gens-là qui sont en train de former ne connaissent rien, mais qu'est-ce qu'ils vont donner aux autres? Quand on n'a rien, on ne fait rien. Le zéro, les 100% de zéro, c'est zéro, comme le disait quelqu'un là. Donc, ne nous attendons pas à de grandes choses. L'applicabilité de loi, est-ce que sera-t-elle en vigueur? On ne sanctionne pas les gens. Lorsque vous volez, vous détournez l'argent du pays, on couronne, on vous donne des galons, vous devenez général ou je ne sais qui. Donc nous avons... Moi, je prends cette histoire avec
voilà,
des
pincettes,
hein, oui, avec des dents. Je suis en train d'observer
à voilà, merci, Christophe.
Et je suis vraiment sceptique, je vais chuter.
Oui, voilà, rapidement. Moi, que
sceptique, vraiment.
Oui,
pas de doute, m'emballe. C'est cette loi, nous sommes les espères en loi, mais nous sommes les derniers en applicabilité.
Merci beaucoup Christophe. Mohamed Boulay, honorable. Honorable Mohamed Boulay, vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais en gros, c'est que les gens se posent la question aujourd'hui, et quels sont les garde-fous, les mécanismes mis en place pour le suivi avant, pendant et après la retraite. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que le gouvernement sera à même, surtout par rapport à la part allouée au budget, que le budget alloue à la rubrique sur la défense nationale, est-ce qu'on saura faire face à toutes ces dispositions prévues dans la loi?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire au dernier intervenant que je ne minimise pas cet aspect des choses, parce que l'homme qui parle, j'ai passé 38 ans de service, et je l'ai dit l'autre fois que j'étais le rapporteur de la commission défense et sécurité lors de la législature passée, et nous avons mis au peigne fin, article par article, ceci. Ils seraient à l'aise, ils ne pourraient pas poser ces questions, tous les intervenants, s'ils avaient cette loi qui est sous pression. Il est, pour le moment, sous presse. Donc, elle n'est pas encore sortie même au journal officiel. Même ce matin, je suis passé par là, j'ai demandé des informations. Cette loi, c'est une loi qui sécurise. Parce que dans cette loi, si d'aucuns pouvaient disposer de cela, ils se rendraient compte qu'on a même pris en compte, même nos anciens combattants, les anciens, ceux qui ont fait l'honneur avec les indemnités de vieillesse, avec tout ceci. Mais pour les réclamations.
Mais avec quel budget, c'est ça?
Mais avec quel budget? Voici les problèmes. La réforme de l'armée, c'est un processus de longue haleine. Même les pays développés, les grands pays à travers le monde, les États-Unis d'Amérique et tout ça, lorsqu'ils ont connu des situations telles que la nôtre, les conflits, ils ont mis beaucoup de temps pour aujourd'hui, 200 ans après la révolution intervient une fois, pour avoir une armée digne de ce nom, avec tous les moyens. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas avec le budget national, parce que de principe, on ne peut pas aller au-delà d'une quantité de plus de 5% sur le budget national pour affecter aux forces armées. Et donc, il y a des mécanismes. Il y a ce qu'on appelle les lois de programmation, qui sont des lois pluriannuelles, qui prévoient des échéances, des acquisitions de matériel majeur, de la formation, tout ça, pour dire, parce que notre gouvernement n'a pas cette capacité, nous pouvons aller en prêter chez ceux qui ont cela. Il y a l'OCDE, par exemple, qui est engagé dans la réforme du secteur de sécurité, qui dispose, donc c'est 30 pays de vieille démocratie, on trouve les États-Unis, on trouve la France, la Belgique, pour ne pas les citer. Si et là on a, dans le cadre de coopération, c'est dans le cadre de partenariat gagnant-gagnant, si tout le monde avait ceci est prévu dans cette loi, comment entendre ce qu'on parle de la rémunération d'abord, et après la retraite, tout ceci est contenu ici, les allocations familiales. Mais il faut beaucoup d'efforts. Ce n'est pas l'armée qui va produire, il n'y a pas de planche à billets pour pouvoir honorer ses engagements. C'est par l'impôt, c'est par le civisme même fiscal que nous allons arriver, que le gouvernement qui a géré
la
au quotidien
donnera de moyens, la
des moyens pour dire la population doit attendre. Parce que j'ai payé mon impôt de quelque part à bout, comme chez moi.
Et en retour, j'attends une sécurisation des biens.
J'attends en retour une sécurisation de moi-même et de mes biens. Et de la même chose pour les routes et tout ce qu'on fait. Et donc, dans cette loi, j'ai dit, c'est plus de 300 articles. Tout ceci, on a prévu même l'allocation dite des vieillesses. À l'article 233, on dit les anciens combattants de 14, 18, 40, 45 ont droit chacun à une allocation dite des vieillesses avec la pension de retraite. Alors, ceci, même les frais funéraires, les frais de rapatriement, les frais de soins, l'allocation des
vieillesses,
tout ceci est prévu, si je comprends bien, c'est au gouvernement de mettre une bonne politique pour que soit de faire ces lois de programmation et de venir par devant l'Assemblée nationale pour dire je ne serai pas réalisé la réforme de l'armée avec les moyens
que j'ai
et par conséquent je viens vous demander ceci. Si vous nous autorisez, c'est au gouvernement d'aller chercher ces fonds ailleurs.
Alors c'est cette loi de programmation, c'est là où maintenant il y a l'inquiétude des uns et des autres, parce que c'est dans toutes les lois promulguées, on se rend compte que la loi de programmation, par où devait-on commencer et pour aboutir à quoi, vous avez dit c'est tout un processus. Mais malgré que ce soit un processus, il faut que la population soit informée par où on doit commencer et pour terminer quand. Le chronogramme.
Moi je crois qu'il faut une communication efficiente. Pas de la part de l'Assemblée nationale, de la part du gouvernement. Pour créer une visibilité, pour dire ceci. Nous avons cessé de le dire, moi particulièrement, au cours de toutes les émissions.
Qu'on a fait avec vous.
Cette loi organique souffre des mesures réglementaires d'accompagnement.
Avant même
qu'ils soient mis à discussion. Alors, cette loi, on avait dans les dispositions transitoires prévu 104 semaines, c'est-à-dire 2 ans pour que les forces armées, la réforme puisse atteindre ce que nous avons voulu dans cette loi. Et maintenant, celle qui vient, le statut des forces armées, appelle aussi des mesures réglementaires, c'est-à-dire des ordonnances, pour nommer qui des officiers généraux à certains postes de responsabilité, qui des officiers, qui des soldats des rangs, selon que c'est de la compétence du président de la République, du premier ministre, des ministres ayant en charge la défense nationale des anciens combattants, ou un arrêté interministériel pour certains secteurs, par exemple. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale de le faire. Et je crois, j'ai la ferme conviction qu'au niveau du gouvernement, que le gouvernement s'attellera dans les tout prochains jours pour mettre tout en marche. Donc, c'est qu'on dit start-up.
Sinon, on croira que c'est vraiment un chapelet des bonnes intentions. Parce que ça
tout à fait, les gens ont l'impression.
On a l'impression que c'est
vraiment un chapelet. Mais nous devons aussi, en âme et conscience, dire que la réforme de l'armée, c'est un processus de longue haleine. Comme d'aucuns diraient qu'à 40 ans, on a encore la force. Écoutez, moi-même, je fais une carrière sans faute. Je suis commando, je suis parachutiste, je suis gendarme et tout ça. Il faut des énergies. N'est-ce pas, ne voyons-nous pas laisser un père conscient que son état de santé ne lui permet pas il a abdiqué. 600 ans après, on n'a jamais vécu ça en l'Église catholique. Je ferme la parenthèse. C'est la même chose avec l'armée.
Voilà. Kabongo qui est à Kinshasa, Arsène Akikuit, et maître Séraphin, je crois. C'est Séraphin à Likassim ou c'est fin. Voilà, c'est comme ça, son nom, je crois que je n'ai pas massacré. Hein. Kabongo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, à tous les occupistes de la radio de la PC, confiance Kabongo à Kinshasa.
Voilà, merci. Kabongo, vous avez la parole.
Oui, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, moi je compare plutôt la loi à un diplôme. Et la promulgation d'une loi comme étant une délivrance d'un diplôme aussi. Vous savez, un diplôme n'est rien d'autre qu'un bout de papier et qui ne fait que faire remarquer une présomption de connaissance. Donc, un diplôme ou une loi peut avoir de la valeur que si on la pratique ou on pratique les connaissances qu'il renferme, je voulais le dire. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il va falloir qu'on puisse doter ces lois des mesures d'accompagnement, comme vient de le dire l'invité, je pense qu'il a déjà tout dit. Mais moi, je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'il adviendra de l'armée actuelle. Comment se fera la transition entre les deux générations? J'aurais souhaité assez que les deux, l'applicabilité de la loi tienne compte de la valeur de la personne humaine. Si on mettait l'homme au centre de tout, comme je l'ai toujours dit, et tout pourra vraiment marcher. Je pense que tout a été dit.
Merci beaucoup, Kabongo. Arsène, vous êtes à Kikuit, bonjour.
La parole, salut à tout le monde. Moi, je voulais aborder dans ce sens... L'honorable est un ancien militaire, il l'a dit. Je veux aussi aborder dans le sens que mon prédécesseur, la transition entre l'armée actuelle qui a beaucoup de failles,
comment ça va se passer
au point de vue du social du militaire. Chaque chose, si on le fait, il y a toujours un début. Moi, je serais un peu sceptique en regardant un peu dans le sens des précautions, des préalables qu'on doit mettre en œuvre pour réaliser ou mettre en pratique cette nouvelle armée. Pourquoi? Parce que tout passe par la formation. Mais voyons un peu les écoles, les centres de formation militaire, les académies militaires. Il faut un budget conséquent pour remettre les infrastructures, remettre toutes les conditions normales plutôt, qui peuvent nous donner de bons militaires demain. L'invité nous a parlé de 2 ans. Je crois que pendant 2 ans, si nous voyons d'abord par les centres de formation, les académies militaires, nous voyons que ça change, là nous pouvons nous dire, ok, peut-être d'ici 5-10 ans, nous aurons une armée correcte. Voilà mon intervention.
Merci beaucoup Arsène. On va terminer avec Maître Séphin qui est à Likassi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, maître Séphin, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez à votre tour la parole.
Oui, merci beaucoup. Moi, les sociales des militaires, c'est une des raisons. Mais il faut d'abord aller au préalable. Qu'est-ce qu'il faut d'abord dans un premier temps pour notre armée? Notre armée nécessite d'abord la prise de conscience, d'abord par les recrues. Pourquoi il est recruté? Et son rôle, c'est lequel? Les millions de dollars qu'on peut donner aux militaires, s'ils n'ont pas la conscience, on retomberait toujours dans les mêmes situations que nous vivons aujourd'hui. Parce que la plupart d'abord des recrues sont analphabètes et illettrés. Donc il faut d'abord les enseigner, éduquer, informer le civisme. Pourquoi choisir ce métier-là? Et leur rôle, c'est lequel? Et l'apport que la société est en train d'attendre pour eux, c'est quoi? Et d'ailleurs, la promulgation est intervenue au bon moment. Parce qu'on est en train de recruter.
Oui, il y a l'opération recrutement des jeunes.
De cette loi-là, et voilà, vraiment, on tient compte de la moralité et des conduites des militaires. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez toujours tous les délinquants donc, sont à l'armée. Donc, à ce moment-là, on déroute même l'armée qui doit être disciplinée. Maintenant, quand est-ce que cette armée servira la société, dès lors que tous ces éléments-là n'ont même pas été tenus compte?
Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé Delicacy. Nous revenons à vous, Mohamed Boulay, honorable général à la retraite. C'est vrai, vous avez suivi beaucoup d'autres inquiétudes. Hein. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Ils ont raison, mais je ne cesserai de dire que c'est un processus de longue haleine. Moi-même, j'ai cette expérience parce que je sais comment ça va se passer. Mais la transition entre l'armée que nous voulons
deux générations,
une armée des générations, nous voulons une armée professionnelle. Et là, la barre est mise pour dire, celui qui va comme soldat des rangs, le minimum de niveau d'études, c'est 4 ans post-primaire. Mais il faudrait que les recruteurs, les agents commis au recrutement, veillent sur cela. Parce que nous savons comment les gens montent sur la détention de pièces scolaires dont ils ne sont pas, ils font ceci, tout ça. Sous d'autres cieux, vous présentez cela, fois en écriture, on doit vous condamner. Et c'est pourquoi le recrutement doit tenir compte comme à la force publique. Nous avons autant de territoires, nous avons autant de provinces. Il ne faudrait pas qu'il y ait un déséquilibre entre certaines tribus d'une province à l'autre. C'est pourquoi à l'époque coloniale, on tenait compte qu'il y ait pas de dépassement de plus de 25% des effectifs des forces armées qu'on veut, les gabarits des forces armées, pour maintenir un équilibre. C'est pourquoi aussi on disait que lorsque vous êtes recruté à l'Est, après la formation, il y a les brassages avec ceux qui sont venus de l'Ouest, du Nord, du Sud, et le permis
d'entrée. Vous pouvez aller partout à travers le pays.
Il n'y avait pas à s'accrocher pour dire, je suis recruté, je reste dans mon coin pour veiller et tout ça. Mais c'est cela.
Et sécuriser les contemporains.
Et c'est cela qui est contenu ici. Là, on ne vient pas avec ses intentions, la bonne moralité. On vient, on trouve les règlements militaires qui sont contenus dans cette statut.
Parce que vous en avez parlé, la nouvelle loi portant statut du militaire, semble-t-il qu'elle vient renforcer le régime disciplinaire en imprégnant les officiers au respect des droits de l'homme, à la promotion et à la protection des genres en toutes circonstances. Voilà.
Tout à fait. Parce que ceci fait partie intégrale de la formation. Un des hommes des rangs, et des sous-officiers et des officiers dans les académies. Parce que nous devons le dire, après cette guerre froide, maintenant on passe à une autre, pour que aujourd'hui les armées du monde entier soient chargées de 5 missions essentielles. La protection de l'indépendance, la souveraineté du territoire, et plus généralement des citoyens de leurs biens. Les missions internationales du maintien de la paix et l'instauration de la paix, les secours humanitaires en cas de catastrophe, les tâches de sécurité intérieure, et enfin, la participation à la reconstruction nationale. Et donc, maintenant, on veut un militaire qui s'adapte à ces conditions. On veut aussi que les politiques puissent mettre les moyens qu'il faut pour disposer d'une armée professionnelle, d'une armée de dissuasion. Qui dit dissuasion?
Une armée républicaine.
Républicaine. Qui dit dissuasion, il faut que les moyens politiques et militaires permettent à un État de s'opposer à des intentions malveillantes de certains pays pour venir, pour dire, attention, si vous faites ça, j'ai la capacité de vous frapper et de vous corriger correctement. Et alors que cela soit aussi bien communiqué. Et c'est cela. Et donc, je disais, si tout le monde dispose de cette statut, de 300 articles, je crois que les réponses, les questions qui se posent maintenant auront trouvé la solution de ceci. Le problème, c'est de voir l'exécution. Parce que ceci appelle un autre chronogramme.
Parce que ça, ce n'est plus votre affaire au niveau du Parlement.
Affaire, c'est au niveau du gouvernement pour dire comment je vais faire pour dégager et rendre budgétisables les postes qui seront vides au départ de la retraite. Comment vais-je m'employer pour payer honorablement les retraites à tous ceux qui ont droit à la retraite et leur réinsertion dans la vie civile, parce qu'il y a beaucoup de capacités, ils ont toutes les spécialités, vous trouvez des infirmiers, des pilotes, des marins, tout ça, des informaticiens, et aussi des confrères, des communications, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les reclasser de manière progressive dans la vie civile?
C'est un programme très ambitieux.
Mais c'est un programme très ambitieux.
Il faut des moyens conséquents.
Il faut beaucoup de tact et il faut beaucoup de détermination et beaucoup de courage politique pour pouvoir faire
ça. Parce que j'imagine à l'époque, nous on allait même à Kalfungula, au Kalfungula, au Camp Kokolo, on voyait des cantines, des militaires.
Oui.
C'est prévu au niveau statut, on va terminer peut-être par là.
Tout ceci est prévu, on a tenu compte de cela. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas recruter. Nous avons le même camp militaire. Nous avons les mêmes installations, tout ça, des choses.
Les mêmes, les mêmes académies qui sont des
vétustes. Lorsque nous sommes au 30 juin à plus ou moins 20 000 ans, on passe à la Deuxième République vers la fin à plus ou moins 60, qu'on n'a pas su maîtriser 60 à 70 000 ans. Mais si nous voulons un gabarit de, que nous voulons 200 000 hommes, par exemple, mais il faudrait construire, il faut tenir compte. Il faut les mettre quelque part dans les conditions, les hommes des rangs, les sous-officiers et les officiers. Et ceux qui prennent la retraite, il faut aussi les suivre pour qu'ils n'aillent pas. Parce qu'un auditeur a dit, s'ils vont maintenant reprendre les armes. Mais sur l'article, sur le pied de l'article 190 de notre constitution, quiconque, c'est sur le coup de la trahison, on laisse les soins à la justice militaire ou à la justice civile tout court pour poursuivre et traquer ces gens.
On reviendra à vous, Mohamed Boulay, honorable Mohamed Boulay, vous êtes ministre honoraire de la Défense et secrétaire général à la retraite. Nous allons revenir à vous pour le jour où il y aura promulgation également de la loi sur le statut de la police nationale. Parce que là, c'est pas encore prêt, hein, voilà, c'est pas encore prêt. Nous allons y revenir encore à vous, on va recourir à votre expertise pour expliquer en long et large et aussi éventuellement revenir sur des points qui sont restés pendantes par rapport à la préoccupation des auditeurs. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation, à très bientôt.
Merci, merci beaucoup. Je suis disponible.
Voilà, merci également à Mimi Kindou qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Titi Koutou et Pierre Lamégi l'ont réalisé. Et Girlungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngata. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Le 13 février, c'est demain donc, la journée mondiale de la radio. En marge de cette journée, Parole aux auditeurs consacre les débats de demain autour des contenus des programmes proposés par les différentes chaînes de radio et télé à travers le pays. Quel regard portez-vous sur la régulation faite par l'autorité des tutelles sur ces différents programmes? Rendez-vous demain à la même heure sur notre chaîne.